France Inter, le 18-20.
La solidarité à l'honneur en ce soir de Noël. Une semaine en France reçoit Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours Populaire. L'association est venue en aide à près de 4 millions de personnes l'an dernier, et cela grâce à plus de 80 000 bénévoles de tous âges.
C'est des enfants qui sont âgés de 7 à 15 ans et qui s'engagent au Secours Populaire pour faire du bénévolat comme les adultes. Et les enfants dans les écoles se sont mis à la place des enfants qui vont les recevoir ces jouets. Donc ça fait vraiment plaisir de voir cette mobilisation.
Ça fait plaisir à ceux qui donnent et ça fait plaisir à ceux qui reçoivent.
J'achète très très rarement dans les magasins. Le prix c'est très très élevé. Je suis tellement heureuse quand Noël approche pour mes enfants. Ils ont les yeux qui pétillent, de les voir heureux comme ça, c'est le plus important.
Des bénéficiaires de plus en plus nombreux avec la crise du Covid, le Secours Populaire a vu arriver des gens qui n'étaient jamais venus frapper à sa porte.
On a beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de jeunes, beaucoup plus de personnes d'un certain âge. C'est des gens dans la détresse et pour certains qui sont un peu gênés de venir nous voir, on essaye de rassurer un peu les gens.
Un reportage à Nancy et à Rennes à suivre. Comment fonctionne le Secours Populaire? Comment est-il financé? Quelles sont ses actions et ses prises de position? Dans un pays qui comptait avant la crise du Covid quelques 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, nous verrons tout cela avec notre invité, donc Henriette Steinberg. Nous nous intéresserons également à son histoire, car on ne devient pas secrétaire général d'une telle association par hasard. Également au sommaire de cette émission, préparée par Laura Laplot et réalisée par Fred Milano, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec une dominante, vous l'avez entendu, une fois de plus, le Covid, qui là aussi est venu jouer les troubles fêtes, y compris pour le Secours Populaire, comme ici à Belfort.
On avait prévu des fêtes, on avait prévu de faire des marchés de Noël, on avait prévu un spectacle de Noël pour 400 gamins. Puis, ma foi, on doit vite rebondir pour que chacun puisse faire la fête.
Faire la fête, ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir à 19h20. Noël, nouvel an, que fêtons-nous exactement? Et qu'est-ce que faire la fête au juste? On en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes. Merci aussi à Arnaud Caillé, Ludovic Asselot et Florian Dorimini qui sont en régie.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Henriette Steinberg.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir, d'être sur le pont en ce soir de Noël, comme beaucoup de bénévoles du Secours Populaire, bien sûr.
Comme 87 000 d'entre eux. Tout à l'heure, vous avez énoncé 80 000.
Plus de 80 000.
80 000, c'était, on va dire, juste avant la Covid. 87 000, c'est, je n'ose dire, après la Covid. C'est pendant la Covid. Et demain, ce sera plus encore. C'est évident que la situation ne s'est pas améliorée et c'est évident que nous avons de plus en plus de demandes et de besoins, qu'il s'agisse de demandes qui viennent d'hommes, qui viennent de femmes, qui viennent d'enfants, qui viennent de jeunes, qui viennent de personnes plus âgées. La litanie de ces situations ne cesse pas. Nous sommes absolument conscients qu'en ce moment de Noël, et où les personnes auraient aimé, comme chacun d'entre nous, souffler un peu, personne aujourd'hui ne peut dire que telle va être la situation. Il n'empêche que pour le Secours Populaire, c'est Noël, c'est le Père Noël vert qui doit faire tout son possible pour aider le Père Noël rouge à passer partout, et c'est la multiplication des initiatives sous une forme ou sous une autre, que ce soit les marchés de Noël, les marchés pop, que ce soit sous forme de rencontres, que ce soit sous forme de
des concerts, d'activités
communes avec des enfants, avec des jeunes, toutes les possibilités pour que les personnes se retrouvent dans le respect des gestes barrières, et nous y tenons beaucoup, c'est pour nous la certitude qu'en le mettant en place comme cela, d'abord nous aidons à ce que les gens ne se contaminent pas, nous aidons à convaincre que la vaccination est indispensable, et nous permettons aux enfants, aux familles, d'avoir un moment de bonheur partagé. C'est l'activité aujourd'hui dans près de 3000 lieux sur le territoire de notre pays.
Voilà, grâce, vous le dites donc, à ces 87 000 oui. bénévoles, Henriette Steinberg, des bénévoles qui se sont mobilisés comme chaque année malgré la pandémie. On l'a entendu tout à l'heure, des bénévoles de tous les âges. On va aller en Ille-et-Vilaine, où les enfants d'une quarantaine d'écoles ont collecté des jouets pour le Père Noël. La distribution a eu lieu le week-end dernier à Rennes. C'est un reportage de Maxime Glorieux de France Bleu Armorique qui a rencontré des parents heureux.
Le Père Noël pourra finalement passer chez Véronique et ses quatre enfants.
Surtout pour les enfants, de garder le côté magie de Noël, le côté effet waouh des petits cadeaux.
Des cadeaux de plus en plus petits.
Il y a encore quelques temps, on pouvait se permettre de mettre 40-50 euros par enfant. C'est vrai que cette année, on va plutôt descendre à 15-20 euros.
Une quarantaine d'écoles d'Ille-et-Vilaine ont donné ces milliers de jouets. Des peluches, des livres, des jeux, mais aussi des instruments. Et des jouets interactifs.
Mode, non. Champ libre.
Tous en très bon état et surtout à prix libre. Pour cette autre maman, le budget pour Noël ne doit pas dépasser les 100 euros pour deux enfants.
Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de braderie en fait. Parce que j'achète très très rarement dans les magasins, le prix c'est très très élevé. C'est tellement dommage de leur priver de ça. Donc je suis tellement heureuse quand Noël approche pour mes enfants. Ils ont les yeux qui pétillent, de les voir heureux comme ça, c'est le plus important.
Élise Lepage est référente au Secours Populaire.
C'est hyper important pour les parents de pouvoir choisir le jouet qu'ils vont leur offrir et puis de leur offrir comme si c'était le Père Noël qui l'avait choisi.
L'année dernière, selon une étude IFOP, 20% des parents n'avaient pas de quoi offrir un cadeau à leur enfant.
Voilà pour cette collecte à Rennes, Henriette Steinberg. Des collectes comme celle-là, il y en a dans plein d'endroits.
Il y en a dans toute la France. Et non seulement il y en a dans toute la France, mais il y a la demande d'apporter des jouets neufs pour que ce ne soit pas la double peine. Pour ceux qui vont avoir le passage du Père Noël, qu'ils aient des jouets neufs comme les autres enfants. Et c'est très important que ce moment soit un moment de communion entre les uns et les autres, quelles que soient les situations. C'est ce qui fait qu'on organise des marchés avant pour que les parents puissent venir choisir et qu'ils sachent que ce qu'ils vont choisir, ce sont des jouets neufs.
Une petite question à propos de vos Pères Noël au Secours Populaire. Ils sont verts. Pourquoi ils sont verts, les Pères Noël du Secours Populaire?
Alors,
il y a une histoire?
Oui. L'histoire. Alors, je vais pas vous le raconter toute l'histoire.
En deux secondes.
Parce que risque d'être longue. Mais en tout cas, le Père Noël vert, c'est le Père Noël dont l'objectif est d'aider le Père Noël rouge à passer partout. Parce que sinon, là où les porte-monnaies sont vides, le Père Noël rouge ne passe pas. Donc, nous sommes bien d'accord. Il s'agit du Père Noël. Il s'agit du Père Noël rouge, et ce Père Noël rouge, quand il n'arrive pas à passer partout, il est aidé par le Père Noël vert, ce qui lui permet de passer partout.
Voilà, c'est ça, c'est collectif, c'est la solidarité entre Père Noël.
C'est ça.
C'est donc Henriette Steinberg un des temps forts de l'année, Noël, mais c'est vrai que vous agissez tout au long de l'année. On sait qu'il y a par exemple la journée des oubliés des vacances, on en parle à chaque année, il y a les vacances à moindre coût pour les familles précaires pendant les vacances, ça fait partie de vos actions importantes. Et puis il y a l'aide alimentaire aussi, tout au long de l'année. En fait, vous ne vous arrêtez jamais au Secours Populaire.
Alors, le Secours Populaire ne s'arrête jamais, mais parce que la vie ne s'arrête pas avant qu'on ne meure. Donc, de toute façon, le Secours Populaire est sur le pont de façon absolument permanente et il s'adapte à la situation et aux situations des personnes et aux difficultés. Donc, c'est pas parce qu'on fait quelque chose à un moment qu'on va le répéter sans modification. Évidemment, tout évolue, l'activité du Secours Populaire évolue. Malheureusement, elle est obligée d'évoluer de façon plus intense du fait de l'aggravation des situations et du fait de nouvelles catégories de population qui ont besoin de l'intervention du Secours Populaire. Qu'il s'agisse de ceux que nous avons connus par le passé, c'est-à-dire des personnes qui travaillaient mais dont les moyens financiers correspondant au travail ne leur permettaient pas de subvenir dans des conditions convenables à tous les besoins de leur famille. Se sont ajoutées à ces familles des personnes qui, jusque-là, n'avaient besoin de rien et n'avaient jamais rien demandé et n'avaient même pas eu l'idée qu'elles auraient besoin de demander et qui, pour des raisons qui sont liées au Covid et aux conséquences de la Covid, se sont trouvées soit totalement démunies, soit démunis dans des conditions telles qu'ils ne sont plus ou qu'elles ne sont plus en mesure de subvenir aux besoins basiques de la vie. Et cela concerne aussi les personnes âgées et les personnes qui sont parents ou grands-parents, dont les situations se sont d'un coup aggravées quand les enfants ou petits-enfants n'ont plus été en mesure d'honorer les échéances des crédits qu'ils avaient contractés. et que c'est venu chez les parents ou les grands-parents. Et de ce fait, ça veut dire que leurs retraites sont lourdement pénalisées par les créanciers. Ce qui fait qu'au Secours Populaire, nous avons vu revenir des personnes âgées, ce que nous n'avions pas vu depuis de nombreuses années.
Alors, je voudrais justement qu'on écoute à ce sujet deux de vos bénévoles de Nancy, Henriette Seinberg, c'est Odile et Gérard. Ils ont vu, comme vous le dites, hein, les conséquences de la crise. Ils se sont confiés à Thierry Collin de France Bleu Sud-Lorraine.
On a beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de jeunes.
Surtout, c'est l'écoute. Écouter, comprendre, pour pouvoir agir, parce que c'est pas seulement de la distribution alimentaire, c'est aussi les aider. Si vous avez un sans domicile fixe, il faut aussi savoir l'orienter. Il y a des problèmes de santé. Avec le Covid, on a reçu beaucoup, beaucoup plus de jeunes. Beaucoup de jeunes qui sont en déprime.
Beaucoup plus de personnes d'un certain âge. On a un peu toutes les couches de la population. On a les habitués aussi, qu'on connaît, avec qui on échange, on demande des nouvelles.
La distribution alimentaire, c'est qu'une porte, c'est qu'une ouverture pour d'autres choses.
Le côté humain, c'est essentiel, parce que c'est des gens dans la détresse et pour certains qui sont un peu gênés de venir nous voir, on essaye de rassurer un peu les gens.
Et une dame là, je voyais bien qu'elle était en grande difficulté, elle n'osait pas le dire en fait. C'est une démarche qui n'est pas facile de dire voilà, moi j'ai de grosses difficultés parce que mes loyers sont chers, mon mari vient de partir, je suis une femme battue parce que elle, c'était son cas. Bon, il y a déjà l'orientation de ces personnes, c'est pas facile de dire qu'on est dans une difficulté.
Voilà pour ce témoignage recueilli à Nancy, Henriette Steinberg. Le Secours Populaire a aidé, je crois, 30% de personnes en plus avec la crise du Covid.
Sur l'année, oui, et à certaines périodes, 45% en plus. C'est évident qu'il y a des catégories de population qui, jusque-là, ne s'étaient pas trouvées dans une situation qui les contraint à venir demander. Et pour ceux qui n'avaient pas du tout l'idée, la situation est, si je puis dire, aussi grave, peut-être même plus grave, parce que comme ils n'ont même pas imaginé que ça pourrait leur arriver, c'est lorsque la situation est totalement dégradée qu'il faut remonter l'ensemble du dispositif. Ces personnes ne sont pas connues des services sociaux.
Vous dites qu'il y a des commerçants, des petits commerçants, des indépendants, des publics inconnus des associations.
Des femmes commerçantes. Qui étaient à la retraite, mais qui n'avaient pas une retraite complète. Et déjà, la retraite des commerçants n'est pas extraordinaire, donc elles ne l'avaient pas complète. Et avec la fermeture de leur commerce, du coup, elles se sont trouvées sans moyens du tout. Et non seulement sans moyens, mais sans logement. Parce que pour nombre d'entre elles, avec le commerce, il y avait le logement. Et quand le Secours Populaire s'est rendu compte de cette situation en rencontrant des personnes et a demandé aux services sociaux et à la puissance publique qu'est-ce qu'on peut faire pour ces populations, eh bien rien, parce que personne n'y avait pensé. Et à ce jour, à ma connaissance, ça n'est toujours pas résolu. Donc ça veut dire que concrètement, des populations qui ni de près ni de loin n'avaient eu besoin se sont trouvées avoir besoin, et s'ajoutent à cela tous ceux qui sont micro-entrepreneurs. Enfin, donc, qui restent micro-entrepreneurs, même s'ils n'ont pas de travail. Pour les micro-entrepreneurs, quand il n'y a plus la possibilité d'aller chez les particuliers et de se faire payer par les chèques-service, ils se sont retrouvés avec rien du tout. Nous avons aussi rencontré des petits entrepreneurs qui, pour des raisons liées à leur situation et à leur relation avec le fisc, se sont retrouvés avec leur compte bloqué. Donc ça n'a pas été, l'argent n'a pas été pris sur leur compte, mais le compte a été saisi et de ce fait les personnes n'ont plus eu accès. Et n'ayant plus accès, ça veut dire qu'ils n'avaient plus non plus de quoi nourrir leur famille. Ce type de population jusque-là n'était pas venu jusqu'au Secours Populaire, et les rencontres que nous avons avec d'autres amis, d'autres associations témoignent de ce que ce n'est pas seulement le Secours Populaire qui l'identifie. Les collègues des autres associations l'identifient aussi.
Donc il y a une augmentation de la pauvreté.
Il y a un élargissement des populations concernées par des situations de précarité basculant dans la pauvreté sans disposer des moyens qui permettent de trouver des solutions, fussent-elles temporaires.
Quand vous entendez que l'INSEE nous a expliqué le mois dernier, à partir de ces statistiques, que le taux de pauvreté était resté stable, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Henriette Steinberg ?
Ah ben, c'est pas seulement envie, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il faut regarder les dates auxquelles les questionnaires ont été posés. Et qu'évidemment, des statistiques qui reposent sur des chiffres de 2019 avant la Covid, eh ben forcément, n'ont pas les effets de la Covid. Quand il s'agit des chiffres suivants, rien ne nous permet de voir qu'il y ait une amélioration, quelle qu'elle soit. Quand on voit aussi les conditions dans lesquelles c'est entre des enquêtes et des sondages sur tel ou tel type de catégorie, il semble que nous sommes, on va dire, très perplexes. Et nous avons d'ailleurs donné notre accord à l'INSEE pour que les enquêtes conduites par des enquêteurs INSEE soient réalisées, y compris dans les files ou dans les lieux où le Secours populaire rencontre les personnes, de telle sorte qu'ils puissent avoir des chiffres qui sont plus en phase avec les réelles personnes.
Puisque vous êtes sur le terrain et que vous voyez de très près ce qui se passe, on va évidemment y revenir, Henriette Steinberg, mais on va d'abord passer, comme chaque vendredi, à l'actualité de la semaine, avec ce mix qui a été mis en onde par Fred Milano. À la une, évidemment, une fois de plus, la pandémie qui repart de plus belle.
Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l'essentiel, de personnes non-vaccinées.
Faute de pouvoir stopper la course folle du variant Omicron, le gouvernement fait un pas supplémentaire pour inciter à la vaccination.
Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass.
J'ai écouté une partie de l'intervention de Castex qui justifie ces lois par rapport aux services Covid qui sont soi-disant débordés. C'est pas vrai.
Et si, c'est vrai. D'ailleurs, si tout allait bien, on ne rappellerait pas les retraités comme cette aide-soignante.
Je ne m'attendais pas à être appelée aussi rapidement en étant à la retraite que depuis 2 mois.
Les médecins qui voient leur service de réanimation se remplir de non-vaccinés commencent à en avoir gros sur le cœur.
Bien évidemment, on est en colère parce que ça fait 1 an qu'on plaide pour la vaccination.
Le docteur Carvelli de la Timone à Marseille.
Donc maintenant, il faut que tous les gens se responsabilisent, une responsabilité citoyenne, à se faire vacciner correctement et à respecter les gestes barrières.
Mais question responsabilité, ce n'est pas gagné.
Vous savez ce qu'ils font, les restos? Ils nous disent, vous avez le pass? Oui, oui, c'est bon, installez-vous, très bien, ils nous le demandent plus après. C'est pas un problème.
Sans parler des faux passes en circulation, Olivier Véran.
Je pense que dans le débat parlementaire, on peut reposer la question du contrôle d'identité associé au contrôle du pass.
La mesure sera débattue lors de l'examen d'un nouveau projet de loi. Depuis cette semaine, les enfants éligibles à la vaccination à leur tour.
Les parents, ils font comme ils veulent. Mais moi, personnellement, je n'irai pas amener mon enfant se faire vacciner.
Je pense que ça va protéger parce que ma grand-mère, elle a fait sa 2e dose et là, elle va prendre rendez-vous pour faire sa 3e dose et elle est toujours pas morte.
Si mamie est toujours en vie, c'est quand même l'essentiel. Sinon, Valérie Pécresse a une idée pour contrer Omicron.
Je me demande s'il ne serait pas préférable de repousser d'une semaine la rentrée scolaire. On sait que la période d'incubation du virus, c'est 1 semaine après les fêtes.
Retarder la rentrée, nouveau débat en perspective. En tout cas, pas question de repousser la présidentielle. La question a été évoquée en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Les échéances démocratiques seront évidemment maintenues.
Elles auront lieu avec ou sans Christiane Taubira, qui réfléchit à se présenter elle aussi.
J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle.
Déjà des déplacements de campagne.
Est-ce que vous connaissez cette dame?
Non.
Alors, je suis Christiane Taubira. J'ai été députée, puis j'ai été ministre de la Justice.
Rejoins les écologistes, Christiane.
L'appel de M. Jadot est un appel sympathique, mais ça n'efface pas l'impasse politique.
C'est peu de le dire.
La vigilance, c'est, même si vous êtes vacciné, de vous tester vous-même ou d'aller vous faire tester avant de retrouver vos proches, en particulier quand ils sont plus âgés.
En attendant, pas trop de bisous et gestes barrières pour les fêtes. Les pharmacies, elles, ont été prises d'assaut pour les tests et les autotests.
Il y a beaucoup de personnes qui veulent se tester, même vacciner, avant le repas, avant les fêtes, pour minimiser le risque, mais on est en rupture de stock.
Les bons conseils, c'est quoi? En 2 mots, c'est diminuer les contacts sociaux. Aérer les pièces.
Aérer, un geste essentiel pour laisser passer qui vous savez.
On va laisser la fenêtre ouverte. Tu vas poser ton prénom dans notre cour et après tu vas mettre les cadeaux en dessous du sapin. On te laissera un petit dessin et un cadeau. Bisous, bisous, ma Père Noël.
On ne s'en lasse pas. Un grand merci à Fred Milano. Une semaine en France en compagnie de la secrétaire générale du Secours populaire, Henriette Steinberg. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à l'un ou l'autre de ces sujets.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus de la catastrophe nationale et mondiale
du Covid,
nous avons dans le pays des situations qui sont, si je puis dire, franco-françaises. Et parmi celles-ci, il y a la numérisation de l'ensemble des services publics à effet du 1er janvier 2022.
C'est déjà bien entamé, cette numérisation.
Alors, c'est bien entamé, sauf qu'à partir du 1er janvier 2022, ça va être global. Ce qui veut dire que 40% de la population de notre pays va se trouver hors jeu. Pourquoi ? Elle va se trouver hors jeu d'abord parce qu'elle n'a pas de facilité à manipuler l'ensemble de ce qui est numérique, mais aussi parce que les réseaux dans notre pays font que selon les endroits où on habite, ça passe ou ça ne passe pas. Et quand dans les lieux où ça ne passe pas, les personnes ne pourront pas remplir les documents qu'elles doivent remplir pour obtenir leurs droits, elles vont se retrouver sans droits. Elles ne vont pas le savoir immédiatement. Elles vont le savoir au bout de 2-3 mois. Parce que le temps qu'elles mémorisent que finalement elles n'ont pas rempli les documents habituels et qu'elles se retournent pour voir comment est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire, on sera au mois de mars, voire au mois d'avril.
Alors qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public, Henriette
Steinberg ? De bien vouloir tenir compte des conséquences d'une décision qui a été prise il y a 2 ans et demi avant la Covid, qu'à tout le moins il diffère. À tout le moins, ils diffèrent. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont avoir réglé, avec la mise en place d'un dispositif 24 heures par semaine dans un certain nombre de lieux sur le territoire national, avec des jeunes extrêmement motivés mais qui ne connaissent pas les réglementations, qui devront s'adresser à une plateforme. Et tous ceux d'entre nous qui ont eu besoin de passer par une plateforme savent ce que ça donne. Derrière, ça veut dire des situations en rafale. Nous sommes sûrs au Secours populaire des conséquences, donc nous avons mobilisé de façon importante pour aider les populations. Mais le Secours populaire à lui tout seul, et même les collègues des autres associations, on ne va pas suffire.
Et la Défenseure des droits a alerté sur ce
mais
sujet,
bien sûr.
Elle aussi.
Donc qu'au moins ils diffèrent. Il y a des tas de choses qu'ils ont différées par rapport à la Covid. Eh bien, qu'ils diffèrent aussi et qu'ils ne pensent pas que les opérations du Saint-Esprit vont se substituer. Les conséquences pour les populations vont être gravissimes.
On voit, Henriette Steinberg, que beaucoup de ces sujets sont des sujets politiques. La lutte contre la pauvreté, la question du logement, la question du prix de l'énergie récemment. Sur tous ces sujets, il faut se faire entendre. Il y a des élections dans très peu de temps. Je sais que le Secours populaire ne souhaite pas prendre position, mais un mot tout de même de la situation actuelle. Vous avez été militante au Parti communiste il y a un certain nombre d'années. La gauche est en piteux état. On a aussi dans le paysage politique une extrême droite qui, si on totalise Marine Le Pen et Éric Zemmour, est à 30%. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Henriette Steinberg ?
Ce que ça m'inspire de façon directe, c'est que la solution passe par l'écoute des gens et par la mobilisation de chacun pour agir et de ne pas attendre que quiconque agisse pour lui. C'est indispensable que les uns et les autres se soutiennent et c'est le sens de l'activité du Secours populaire. Nous ne disons pas « venez au Secours populaire » et on agrège tout le monde. Nous disons « chacun peut agir et il faut agir ». Il faut se préoccuper de la jeunesse en très grande priorité. Il faut se préoccuper des personnes en difficulté parce que n'importe lequel d'entre nous peut être en difficulté. Et c'est parce qu'on est disponible aux uns et aux autres que l'on peut construire des solutions. La question des élections est une question de citoyens et chacun prend ses décisions. Mais il y a la vie qui continue, élection ou pas élection. Et cela suppose que les uns et les autres se demandent « qu'est-ce que je peux faire pour être efficace, actif, solidaire ?» Et dans la population, cette démarche est très bien entendue. Si je vous ai dit tout à l'heure qu'on est passé de 80 000 à 87 000, c'est pas simplement pour le chiffre, c'est parce que parmi ces personnes sont venus de très nombreux jeunes qui sont aussi en déshérence parce qu'ils ne savent pas de quoi l'avenir va être fait pour eux. Et nous pensons, nous, au Secours Populaire, que l'un des moyens, c'est aussi, en rencontrant tous ceux qui peuvent intervenir sur ce sujet, d'aider à ce que ces jeunes se forment et puissent travailler en disposant d'une rémunération. Et c'est pas par des petits bouts de ceci ou de cela que l'on peut faire, si je puis dire, avancer le schmilblick. Il faut prendre la question sur le fond, de façon tout à fait humble, parce que comme il faut reconstruire toute une série de choses qui ont été cassées, eh bien, il faut prendre le temps de le faire. Et le Secours Populaire s'y emploie, va continuer de s'y employer et va continuer de diffuser cette démarche parce qu'elle est efficace et qu'on voit de surcroît que ça marche. En termes d'activité, de réflexion, d'analyse, de tout ce que vous voulez, la question, c'est pas où est Pierre, Paul ou Jacques, c'est qu'est-ce qu'il fait et comment on voit l'efficacité de ce qu'il fait. C'est ça le sens du Secours Populaire et nous avons la conviction que sur ce sujet, nous sommes bien au-delà d'un certain type de lecture. Alors, c'est très banal de le dire, la critique est facile, l'art est difficile. En ce qui concerne le Secours Populaire, nous, on vérifie, on écoute, on réalise, on vérifie si ça marche. Si ça marche pas, on essaye de comprendre pourquoi. Si nous le faisons, d'autres peuvent le faire. Et d'ailleurs, à la lecture des documents qui sont aujourd'hui produits, aussi bien par le Secours catholique que par les Restos du Cœur, manifestement, la démarche qu'on a est entendue. Plus on sera nombreux à se faire, pas seulement les avocats, mais les aides et les soutiens concrets des populations, et mieux les choses iront. D'autant que notre pays est un pays riche, on doit pouvoir trouver les moyens.
Alors à propos de moyens, le Secours Populaire Henriette Steinberg tient à son indépendance, ça on l'a compris. Il y a, pour financer toutes vos activités, les dons, il y a aussi toutes les opérations organisées pour récolter des fonds. Exemple, ces trésors mis aux enchères au début du mois à Rouen, des œuvres d'art originales que des donateurs ont offertes au Secours Populaire de Seine-Maritime. Coralie Moreau, de France Bleu Normandie, était là lors de l'inventaire.
Et pour la visite, Émilie Le Bigre, secrétaire générale du Secours Pop 76, qui ne réalise toujours pas l'exploit accompli.
Non. Honnêtement, non. On pensait pas. Et en fait, on est tellement ravis.
Car cette vente a une sacrée allure. Une centaine d'artistes ont fait don d'une ou plusieurs œuvres, et certaines gigantesques.
Magnifique tableau offert par 2H, dont 2H est un artiste local, mais qui s'est exporté aussi au Canada et aux États-Unis. Nous avons aussi un magnifique Batman d'1m90, qui nous a été offert par Kinépolis et qui a été customisé par un artiste de street art local qui s'appelle Osis.
Il y a aussi des instruments de musique remarquables.
Une magnifique guitare Fender Stratocaster en édition limitée.
Et une étrange guitare sèche aussi.
Écoutez, donc Mathieu Chédid a signé pour le Secours Pop M de M et elle a été customisée.
Impossible de citer tous les artistes, Incoy, Eclose, Dominique Verviche, Roner, et puis des objets de particuliers minutieusement sélectionnés.
Des coupes de champagne pour fêter le réveillon avec vos amis. Si vous avez des neveux, vous pouvez leur offrir d'un seul coup 45 voitures.
Vous trouverez même de quoi faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment. Le poisson signé Valoris, par exemple, coloré en dorure, souvent éclairé quand c'était à la mode.
Cadeau moche, pas cher. Et en plus, comme on est fort sympathique, on vous offre 2 vases pour aller avec.
À vous de jouer, celui-là aussi doit trouver preneur.
Voilà pour ce reportage de Coralie Moreau. Finalement, cette enchère Henriette Steinberg, cette enchère pop solidaire a rapporté 20 000 euros. Qui dit mieux ? Les petits ruisseaux font les grandes rivières ?
Alors, tout à fait. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et nous mettons en place, comme tous les ans, le Donation. Et ce Donation va avoir cette année une caractéristique particulière. C'est que dans chaque département, chaque fédération va rechercher le cadeau le plus original qui va être celui qui sera au moment du tirage au sort de ceux qui vont avoir participé à la campagne du Donation. Donc ce que les amis du 76 ont fait, on va le faire dans toute la France parce que le Secours Populaire a besoin de moyens. Il a besoin de moyens pour rester et pour être toujours mieux et plus indépendant. Et cela repose sur la générosité de la population. Mais plus largement, ce n'est pas pour mettre l'argent dans des coffres, c'est pour que cela soit utilisé pour l'ensemble des activités que nous menons en France, en Europe et dans le monde. Les Pères Noël passent de façon planétaire.
Parce qu'effectivement, ça on ne l'a pas dit, mais le Secours Populaire agit à l'international. C'est son histoire. Les dernières actions, c'était essentiellement le Liban, Haïti.
Bien sûr, et c'est, nous sommes dans une vingtaine de pays pour les Pères Noël verts. Et l'activité du Secours Populaire est sur tous les continents. Et nous avons, par exemple, et récemment, malheureusement pour eux, dû intervenir aussi pour ceux qui sont frappés par les catastrophes aux États-Unis. Et c'est une association partenaire du Texas qui va effectivement apporter la solidarité dans le Kentucky. Donc pour nous, c'est très clair. Nous n'avons qu'une planète et nous avons à nous en préoccuper. Nous le faisons par le réseau de l'ensemble des associations avec lesquelles nous sommes. Et nous avons la même préoccupation partout. Il faut que les enfants aillent à l'école, il faut qu'ils soient nourris, il faut qu'ils soient logés, il faut que leur santé soit bonne. C'est la même chose pour les autres catégories de la population. Nous avons largement de quoi faire et tous ceux qui nous écoutent peuvent y contribuer directement.
Voilà, le message est passé. On va écouter un petit peu de musique, Oren Steinberg, et ensuite on parlera de votre parcours. Comment vous êtes devenu secrétaire général du Secours Populaire ? Véronique Sanson, choix musical de Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de la secrétaire générale du Secours Populaire, Henriette Steinberg. Henriette Steinberg, vous êtes née, on peut le dire, en 1951, janvier.
22 janvier.
Janvier 51, par grand froid, paraît-il, dans une famille d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Votre papa était originaire de Roumanie, votre maman de Moldavie. Des familles durement éprouvées, évidemment, par ce qui s'était passé.
La mère de ma maman était née en Moldavie.
Famille durement éprouvée par tous les événements de la Seconde Guerre mondiale. Vos parents se sont rencontrés à Paris.
Oui, mes parents se sont rencontrés à Paris. Ils se sont rencontrés à Sciences Po, l'un et l'autre, avec une famille partie décimée par le nazisme. Et par les collaborateurs des nazis dans les différents pays d'Europe. Et ils se sont rencontrés en Sciences Po, à Sciences Po, et ils ont décidé non seulement de vivre ensemble, mais de se marier, et ils ont décidé aussi d'avoir des enfants, ce qui était pour eux la première des victoires.
Et votre papa a voulu être historien. Ça aussi, c'était lié à l'histoire.
Oui, c'était lié à l'histoire. Enfin, c'était lié à ce qui, pour lui, n'était pas de l'histoire, mais était un réel vécu. C'est que ses amis et camarades de lycée avaient été assassinés et accrochés à des crocs de boucher par le nazi Antoniescu en Roumanie. Et qu'il s'est promis qu'il passerait sa vie à le faire savoir. Il n'a pas tout le temps été historien, il a eu de nombreux métiers.
Notamment journaliste.
Mais il a poursuivi une analyse historique pendant l'ensemble de sa vie. Et il est allé interroger les criminels de guerre en prison pour comprendre comment cela avait pu être possible. Et il a conclu l'un de ses ouvrages par cette phrase « Et en plus, il n'était même pas antisémite ». C'est-à-dire que les fondements des exécutions par millions obéissaient à des décisions qui ne se limitaient pas à de l'antisémitisme, ce qui n'est pas nécessairement le plus rassurant. Il a toute sa vie fait tout ce qui était possible pour faire connaître le fait que lorsqu'on résiste, on a des chances de s'en sortir. Ce n'est jamais le cas quand on cède.
Et cette leçon-là, vous l'avez retenue. Est-ce qu'on peut dire aussi, Henriette Steinberg, que la solidarité et l'entraide étaient des vertus familiales?
Absolument.
Qu'on vous a transmis?
Ah, tout à fait. Et je sais, pour l'avoir entendu de mon père, que cette solidarité était déjà exprimée par son propre père en Roumanie. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement une transmission familiale.
Du côté de votre maman, elle était militante communiste, votre maman, et vous avez adhéré, vous aussi, aux Jeunesses communistes, alors que vous étiez, je crois, en troisième.
Exact.
Elle était au Secours populaire, vous avez suivi sa...
Les deux chemins Comment je vais vous dire? Les deux chemins sont deux parties de l'activité. Dans un cas, il y a une analyse politique et une décision de ce qu'il est possible de changer par des voies politiques, ce qu'il en est en France, en Europe et dans le monde. Et il y a une autre démarche, et les deux peuvent être parfaitement parallèles, qui est, certes, c'est sûrement ça l'idée, mais en attendant, on fait quoi? Et en ce qui concerne ma mère, elle a toujours été solidaire de tous ceux qui étaient en difficulté, et mon père de même. Nous avons, les enfants que nous étions, connu différentes personnes qui étaient pourchassées pour des opinions politiques, jamais pour des délits de droit commun. Et toutes ces personnes se battaient pour la liberté dans leur pays respectif. Donc évidemment, ça laisse des traces.
Évidemment. Vous êtes devenue bénévole au Secours populaire très jeune, Henriette Steinberg. Première collecte à l'âge de 12 ans, en 63, pour les mineurs en grève. Vous êtes devenue responsable au Secours populaire très jeune aussi, en 75, à l'âge de 24 ans. Oui. Vous êtes restée des années. Je sais pas, j'ai même pas compté combien à ce poste-là. Je sais pas s'il faut parler de poste. Et puis maintenant, vous êtes secrétaire.
Ce sont pas des postes, ce sont des fonctions.
Des fonctions.
Ce sont des fonctions auxquelles les uns et les autres nous sommes élus. Et nous sommes élus par des congrès qui se tiennent tous les deux ans. Donc c'est pas, on n'est pas sur des postes de travail. On est sur des fonctions et des missions. Et ces missions sont des missions de solidarité en France, en Europe et dans le monde.
Et vous avez succédé il y a deux ans à Julien Lauprêtre, un personnage emblématique qui est resté à la tête de l'association extrêmement longtemps. Il était président, Julien Lauprêtre. Vous êtes secrétaire général. C'est quoi? C'est l'humilité féminine
L'humilité féminine,
pas vraiment.
Je ne pense pas, parce que je boxe pas dans cette catégorie. Non, c'est pas ça, c'est une question de fond. Julien était secrétaire général faisant fonction de président depuis, de mémoire, je sais plus si c'est 54 ou 55. En 2005, il a dit, écoutez, tout le monde m'appelle président, est-ce qu'on ne pourrait pas m'appeler président? Il a dit, bah, bien sûr, tu veux être président, pourquoi pas? Mais il y a des fonctions à remplir et des fonctions de secrétaire général. Et ces fonctions de secrétaire général sont des fonctions de secrétaire général du conseil d'administration du Secours populaire, puisqu'on est une association reconnue d'utilité publique. Sur ce sujet-là, c'est la tâche que Julien Lauprêtre m'a confiée bien avant, c'est-à-dire en 1982, d'être secrétaire du conseil d'administration. Pourquoi ? Parce qu'en ce qui concerne l'administration, ça n'intéressait personne au Secours populaire, ce que je pouvais comprendre, mais dans mes activités professionnelles, je savais le faire. Donc, je l'ai été. Et en 2005, quand Julien a été élu président, j'ai été élu secrétaire général. D'accord. Maintenant, avec le décès de Julien, je suis revenue au statut du Secours populaire, un secrétaire général faisant fonction de président, parce que secrétaire général, c'est collectif, et que président, c'est une fonction individuelle.
Voilà, la mise au point est faite. Henriette Steinberg, toujours dit que vous êtes bénévole au Secours populaire. Vous avez eu un métier à côté de ça.
De nombreux métiers.
De nombreux métiers. Vous avez travaillé au CREDOC, où vous faisiez des études sur les conditions de vie des gens. Vous avez travaillé pour la ville de Champigny-sur-Marne, chargé des ressources humaines de l'informatique. Pour le Conseil général du Val-de-Marne, où vous êtes occupé des ressources humaines, de la logistique. Vous avez toujours travaillé tout en étant bénévole. Alors, ça fait déjà deux casquettes. Ça fait pas mal de choses, mais en plus de ça, en plus de votre métier et de votre engagement bénévole, il y a la librairie, la Balustrade, à Paris.
Alors la librairie, la Balustrade, a été mise en place par ma mère en 1996.
Librairie citoyenne.
Et c'est une librairie citoyenne, et quand elle est décédée en 2015, je m'étais engagée auprès d'elle à la reprendre, et c'est ce que je fais. C'est une librairie citoyenne, c'est une librairie spécialisée, sciences techniques, sciences sociales, sciences humaines, avec la volonté que les auteurs d'abord soient vivants, même si on vend Platon et qu'on sait qu'il est mort, pour qu'il puisse y avoir de la controverse et que les auteurs puissent présenter devant ceux qui viennent ce qu'ils écrivent et qu'ils puissent discuter avec le lectorat. Pour ce qui concerne le Secours populaire, ça c'est une autre de mes activités. Le fait d'être libraire, mais pour moi, il y a un lien étroit parce que ce lien, c'est la culture. Et ce lien de la culture, pour le Secours populaire, en fait, ce que je pense, c'est que nous faisons appel à l'intelligence et à la culture parce que nous avons l'histoire. Et c'est exactement ce qui se passe à la librairie.
Et comme ça, la boucle est bouclée.
Absolument.
En tout cas, les journées sont bien remplies entre le travail, le bénévolat, la librairie, la vie de famille. Hein, vous êtes mère de deux enfants, grand-mère.
Je suis grand-mère de six petits-enfants.
Et le Secours populaire dans tout ça, on le qualifie comment? De seconde famille? Famille très élargie?
Je ne crois pas que ce soit familial. Je pense que c'est le monde, tout simplement. Le Secours populaire est ancré dans le monde. Et à cet égard, tous ceux d'entre nous qui sont aujourd'hui sur cette planète, nous avons capacité à faire en sorte que cette planète perdure. À cet égard, tout ce qui y contribue, ça a pour moi du sens, et c'est ça qui constitue le sel de la vie.
Tout ce qui est humain est nôtre.
Absolument.
La devise du Secours populaire, on la rappelle. Merci mille fois d'être venue ce soir, Henriette Steinberg. On vous souhaite un très joyeux Noël à vous, à tous les bénévoles, à tous les bénéficiaires du Secours populaire, à tous les auditeurs de France Inter.
C'est ce que j'allais vous dire. Très belle fête à tous et toutes. Et merci au service public.
Je vous remercie, Henriette Steinberg. Bonne soirée à vous.